pour la dignité. Donc, c'est tout de suite. Voilà, donc bienvenue sur Fréquence Mistral si vous nous rejoignez. Et puis, ben, tout de suite, on commence avec Pour la dignité, cette émission sur les droits humains avec Régis Coulanges. Bonjour Régis.
Bonjour Odile, bonjour à tous. Et puis, je vous souhaite une bonne année. Et puis, nous espérons que cette année 2026 verra enfin des progrès dans les droits humains, le respect des droits humains, parce que c'est depuis quelques années, on observe de plus en plus de régimes liberticides et puis des atteintes à l'état de droit et au droit international. Et nous sommes donc très inquiets à Amnesty International parce que nous pensons que les droits humains ne sont pas le problème, mais sont la solution pour de nombreux conflits. Voilà, alors je vais vous parler en cette première émission de l'année 2026, bien sûr, de la position d'Amnesty suite à l'intervention des Américains au Venezuela. Cette intervention menée par l'administration Trump qui a conduit à la capture de Nicolas Maduro et Cilia Flores soulève de graves préoccupations quant au respect des droits humains de la population vénézuélienne. Elle constitue très probablement une violation du droit international, notamment de la Charte des Nations Unies, tout comme la volonté affichée des États-Unis de diriger le Venezuela et de contrôler ses ressources pétrolières. Amnesty International est particulièrement préoccupé par les risques d'escalade des violations des droits humains dans le pays, que ce soit en raison de nouvelles opérations américaines ou des représailles du gouvernement vénézuélien aux attaques américaines. L'organisation exhorte le gouvernement américain à respecter le droit international humanitaire et le droit international des droits humains, à donner la priorité à la protection des civils et à garantir les droits humains de toutes les personnes privées de liberté, notamment le droit à des procédures équitables et à un traitement humain. Elle appelle également les autorités vénézuéliennes à s'abstenir de toute nouvelle répression, leur rappelant qu'elles sont tenues, en vertu du droit international, de respecter et de protéger les droits humains de tous les Vénézuéliens. Parmi les personnes les plus immédiatement menacées, figurent les défenseurs des droits humains et les militants politiques qui s'opposent courageusement depuis des années aux violations des droits humains et aux crimes de droit international commis par le gouvernement Maduro. Amnesty International est solidaire du peuple vénézuélien, des milliers de victimes et de survivants et des millions de personnes qui ont fui après des années de violations graves et de crimes contre l'humanité. Amnesty International réitère son appel de longue date à ce que le gouvernement fasse l'objet d'une enquête, gouvernement Maduro, et lorsque les preuves le permettent, que les personnes responsables soient poursuivies devant un tribunal indépendant et impartial afin de garantir justice, réparation et des garanties de non-répétition pour les survivants et les victimes de violations au Venezuela. Amnesty International s'inquiète de ce que l'attaque contre le Venezuela et la capture de Nicolas Maduro et Cilia Flores, par l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, aggrave encore la dégradation du droit international et de l'ordre international fondé sur les règles. Ces actions témoignent d'un système international régi par la force militaire, les menaces et l'intimidation, et elles accroissent le risque d'actions similaires par d'autres. Nous allons maintenant écouter une chanson vénézuélienne du groupe Montilla, à la Vaca Mariposa.
La vaca mariposa tuvo un ternet, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando lo ven hacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se da. La vaca mariposa tuvo un ternet. La sabana le ofrece reverdecer. Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se lava. La vaca mariposa tuvo un ternet. y los pericos van, y el gavilán también con frutas criollas, hasta el caney para él y mariposa está, que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos van, y el gavilán también con frutas criollas, hasta el caney para él y mariposa está, que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un ternero, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papayito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes, que no se lava. Que mariposa tuvo un ternero. La sabana le ofrece reverdecer, los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes, que no se lava. Que mariposa tuvo un ternero. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas, hasta el caney para él y mariposa, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas, hasta el caney para él y mariposa, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un terné.
On enchaîne, donc voilà. Alors en décembre, nous avons fait la campagne « Changer leur histoire ». C'est une campagne mondiale de signature de pétition en soutien à des défenseurs des droits humains, à des personnes victimes du non-respect de leurs droits. Nous avions donc 8 cas présentés sur Digne. Alors il s'agit de d'Amis Soa de Madagascar, qui a été contraint de quitter ses terres pour fuir la sécheresse et la famine. Il lutte pour les droits fondamentaux des déplacés climatiques. Nous avons Sonia Damani, avocate emprisonnée pour avoir dénoncé le racisme et les conditions de détention inhumaines dans les prisons en Tunisie. Nous avions Sae Sok Taek au Myanmar, qui est un journaliste qui a été battu et condamné à 20 ans de prison avec travaux forcés pour avoir photographié les conséquences d'un cyclone. On a le groupe de jeunes femmes, notamment, qui s'appelle les Guerreras por la Amazonia, en Équateur, qui sont déterminés à protéger leur communauté et leur futur des ravages causés par le torchage du gaz en Amazonie. Nous avons le cas d'Elinor Guttorm Utsi, qui représente le peuple Sami en lutte pour protéger leur mode de vie contre l'installation de parcs éoliens sur leur terre ancestrale. C'est en Norvège et dans le nord de tous ces pays, vers le cercle arctique. On a les militants et militantes de The Mother Nature Cambodia, emprisonnés pour avoir défendu l'environnement contre les actions des entreprises et du gouvernement. Au Nigeria, un condamné à mort, Ayaya Sharif Aminu, condamné à la peine de mort pour une chanson considérée comme blasphématoire. Et Juan Lopez, au Honduras, assassiné pour avoir défendu les fleuves et les forêts face aux projets miniers. Donc on demande, bien sûr, on demande une enquête et que les coupables soient condamnés de cet assassinat. Voilà. Alors nous avons fait cette action et nous avons recueilli, alors à la médiathèque, le groupe de Digne avait installé les pétitions et tenu un stand, voilà, et nous avons obtenu 889 signatures. Au lycée Pierre-Gilles de Gênes, l'antenne jeune a obtenu 1485 signatures, c'est assez impressionnant, hein, bravo à ces jeunes de l'antenne jeune. Et puis au lycée Alexandra Davinel, où hélas l'antenne jeune est en sommeil, nous n'avons obtenu que 350 signatures. Donc on voit l'efficacité d'une antenne jeune dans un lycée, et on espère qu'elle pourra renaître au lycée Alexandra Davinel. Voilà, alors vous pouvez toujours aller sur le site amnesty.fr pour signer en faveur de ces personnes, signer les pétitions, et puis vous avez des actions des actions à faire sur le site. N'hésitez pas à y aller. Et puis en même temps, vous pouvez vous informer avec des informations qui sont sûres, recoupées, vérifiées. C'est le label d'Amnesty International. Voilà, on écoute la musique Kotakachi. Voilà, nous partons maintenant en Iran. En 2023, le prix Nobel de la paix avait été attribué à Narges Mohammadi. Elle n'avait pas pu se rendre en Norvège pour recevoir son prix, parce qu'elle était détenue en prison injustement par les autorités iraniennes. Donc ce sont ces enfants qui avaient lu à cette occasion un texte écrit par leur mère. J'écris ce message derrière les murs hauts et froids d'une prison. Je suis convaincu que la lumière de la liberté et de la justice brillera avec force sur la terre d'Iran. En décembre 2024, après 3 années de détention, Narges avait été libérée pour des raisons de santé. Mais sa détermination est sans faille, elle poursuit sans relâche son combat. Jusqu'à ce vendredi 12 décembre 2025, pas moins de 39 personnes sont arrêtées lors d'un hommage à un avocat retrouvé mort dans son cabinet. Narges est à nouveau arrêté. Donc vous pouvez trouver sur le site amnesty.fr une lettre à envoyer à l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en France. Je vous lis ce texte de la lettre que vous pouvez adapter comme vous voulez. Je vous exprime ma préoccupation face à l'arrestation de toutes les personnes détenues arbitrairement pour avoir exercé pacifiquement leurs droits humains le 12 décembre 2025 à Mashhad, dans la province de Razavi, Khorasan, lors de la commémoration de l'avocat Khosrow Ali Khorki. Les autorités ont annoncé 39 arrestations liées à la cérémonie commémorative. Parmi les personnes détenues figurent les défenseurs des droits humains Narges Mohammadi, Aliye Motabzadeh, Asti Amiri, Pouran Nazemi, Sepideh Golian, Ali Adenazadeh, Javad Ali Khordi, le frère de Khosrow Ali Khordi. Selon les informations d'Amnesty International, les agents ont recouru à la torture et à d'autres mauvais traitements lors de l'arrestation, notamment en frappant violemment Narges Mohammadi et Aliye Motabzadeh, qui ont toutes deux dû recevoir des soins médicaux pour des blessures liées à la torture. Je vous prie instamment de libérer toutes les personnes détenues arbitrairement pour avoir exercé pacifiquement leurs droits humains le 12 décembre 2025, dont la prisonnière d'opinion, Narges Mohammadi, dans les meilleurs délais et sans condition. Veuillez agréer, monsieur l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en France, l'expression de ma haute considération. Voilà, donc c'est une lettre que vous pouvez envoyer à partir du site amnesty.fr. Il faut être nombreux pour faire pression sur l'ambassadeur. Je vous remercie. Et nous écoutons la fameuse chanson Bella Ciao en persan. Parler d'un procès historique qui s'est tenu à Paris. Et c'est un pas majeur dans la lutte contre l'impunité. Le lundi 15 décembre 2025, Roger Lumbala a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle à Paris pour complicité de crimes contre l'humanité. Les faits remontent à 2002, la deuxième guerre du Congo, l'un des conflits les plus meurtriers de la région, fait rage depuis 4 ans déjà. À la tête du groupe armé Rassemblement des Congolais démocrates nationales, Roger Lumbala dirige l'opération Effacer le tableau, une campagne militaire d'une extrême violence dans l'est de la République démocratique du Congo, caractérisée par des attaques systématiques. Homicides, tortures, esclavage, cannibalisme forcé, pendant plusieurs mois, les effaceurs font vivre l'horreur aux populations civiles de la région, en particulier les groupes ethniques Mobutu et Nande. Les femmes payent un lourd tribut. Le viol devient une arme de guerre, un mode opératoire utilisé pour détruire les communautés. Ces violences marquent encore les esprits. Or, deux décennies plus tard, les victimes attendent toujours que justice soit rendue. L'impunité reste totale. Après la guerre, Roger Lumbala deviendra même ministre, député, puis candidat à la présidentielle en 2006. Jean-Pierre Bemba, un de ses alliés durant l'opération, occupe aujourd'hui le poste de vice-premier ministre du transport et des voies de communication. Aujourd'hui, la condamnation de Roger Lumbala marque donc un pas crucial vers la justice. Il est jugé coupable de complicité dans des crimes contre l'humanité, notamment des homicides, des actes de torture, des viols, des faits d'esclavage et des pillages commis en 2002 et 2003. Le procès se tenait à Paris, en vertu du principe de compétence universelle. Depuis 30 ans, la République démocratique du Congo est marquée par les conflits. Or, le pays a failli à son devoir de justice à l'encontre des responsables de violations des droits humains. Un manque de volonté politique particulièrement prégnant pour les crimes commis durant la Deuxième Guerre du Congo. Ce procès est un marqueur d'espoir. Il montre que les responsables de crimes, au regard du droit international, seront tenus de rendre des comptes, même 20 ans après les faits. Il envoie aussi un signal fort dans le contexte actuel, alors que des violences inimaginables sont commises par différentes factions armées, telles que le M23 ou les Wazalendo, dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. C'est aussi la première fois qu'un responsable de son rang, aussi haut placé au Congo, est jugé pour des crimes commis avant 2004. Par ailleurs, bien souvent, les responsables militaires sont jugés par des tribunaux militaires, ce qui est problématique car l'influence hiérarchique de l'armée affaiblit leur indépendance. Résultat, dans les cas de crimes commis par l'armée, les personnalités à la tête des chaînes de commandement sont rarement jugées. Or, ces mêmes personnes sont ensuite redéployées dans d'autres contextes et le sentiment d'impunité reste total. Un État juge traditionnellement les crimes qui sont commis sur son territoire. Mais s'agissant de crimes internationaux comme le crime de guerre, crime contre l'humanité ou génocide, la compétence universelle s'applique. Souvent perçue comme un mécanisme de dernier ressort, la compétence universelle intervient, dans la majorité des cas, lorsqu'aucune autre voie n'est ouverte aux victimes, que les accès à la justice sont paralysés pour des raisons d'absence de volonté ou de capacité du pays où les crimes ont été commis. Plusieurs avancées majeures sont à noter en matière de lutte contre l'impunité dans le pays. En 2002, la RDC, République démocratique du Congo, a signé et ratifié le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Ce faisant, des crimes internationaux tels que le crime de génocide ont été intégrés au sein de la loi congolaise. En 2006, l'adoption d'une nouvelle constitution a permis aux tribunaux militaires de juger les crimes graves commis par les membres des forces armées de la police. Puis en 2013, une nouvelle loi a permis de réorganiser le système judiciaire congolais. Cette réorganisation confère au système judiciaire civil la possibilité de juger des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, voire des crimes de génocide. Une avancée majeure, bien qu'en pratique, les tribunaux militaires continuent de prendre en charge ces crimes. L'utilisation des violences sexuelles comme arme de guerre est caractéristique des conflits en RDC. Nous le documentons depuis une vingtaine d'années. Dans notre dernier rapport, nous dénonçons les violences commises par le groupe armé M23 et les Wazalendo. Ce cycle de violence doit impérativement cesser. Les victimes doivent obtenir justice et réparation. Nous allons maintenant écouter la chanson Roga Roga, tolérance zéro rupture.
Oye koya, heya.
Alors nous restons en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, pardon. Par rapport à ce procès qui vient de condamner Roger Lumbala, il envoie un message fort. Même 20 ans après, les faits, justice sera rendue. Or, on constate qu'il est très peu médiatisé en République démocratique du Congo. Cela doit nous interpeller. Le gouvernement devrait ériger ce procès comme un exemple en matière de lutte contre l'impunité auprès de la population congolaise, à travers davantage de sensibilisation et de vulgarisation, mais ce n'est pas le cas. Ce travail est porté par les organisations de la société civile. Mais la période est très compliquée. Dans le Nord Kivu, sous occupation des groupes rebelles, les conditions ne permettent pas aux défenseurs des droits humains de mener une véritable mobilisation et de s'organiser. La mobilisation de la société civile, notamment sur les questions de violence sexuelle, se déroule de deux manières. D'un côté, sur le plan judiciaire, certains activistes mènent en justice des responsables militaires, souvent au péril de leur vie. C'est le cas de l'avocate Wivine Kavira, qui s'est mobilisée auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Son combat a récemment abouti à la condamnation de la RDC. La Commission a jugé les forces armées congolaises responsables de violences sexuelles commises en janvier 2011 et ordonné à Kinshasa d'indemniser les victimes à hauteur de plusieurs milliers de dollars. De l'autre côté, de nombreuses initiatives sont portées par la société civile pour que les victimes aient accès à des réparations et puissent reconstruire leur vie. En ce sens, nous avons obtenu des avancées, notamment avec la mise en place d'un fonds national pour la réparation des victimes. Une étape importante, bien que sa gestion manque encore cruellement de transparence. La lutte contre l'impunité, la justice et la redevabilité sont au cœur de notre mobilisation en RDC. Nous menons des recherches en réalisant un gros travail de collecte de preuves et de témoignages de victimes. Par ailleurs, nous mettons ces recherches à disposition du gouvernement pour faciliter la mise en place d'investigations et le lancement de procédures auprès d'institutions internationales telles que la Cour pénale internationale ou la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple. Nous venons par ailleurs de lancer une campagne de solidarité mondiale qui s'appelle 6 millions de voix pour la justice en RDC. Une campagne née d'un constat, la lutte contre l'impunité est la clé pour tout espoir de paix et de stabilité dans le pays. À travers cette mobilisation, nous souhaitons rallier la communauté congolaise, régionale et internationale, pour exiger une justice effective en RDC. Nous voulons aussi amplifier la voix des survivantes après des décennies de violence dans le pays. Leur demande de justice est très forte et nous sommes plus que jamais mobilisés pour soutenir leur appel. On écoute maintenant Bernard Lavillier, Le Cœur du Monde.
J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort, celui des multitudes et de la solitude. Je croise de plus en plus la haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés. Sur ses désirs brûlés. La tête du dictateur, la tête du fusilleur, toujours en embuscade dans les rues de Bagdad. Si la démocratie peut tomber en 10 heures, si les banques surnagent, attendant le naufrage, alors nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme. Tu ne pourras plus faire demi-tour, enchaîner, 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 enchaîner. Après la guerre, on est dans l'entre-deux. On attend la prochaine, la dernière, la certaine. La guerre économique au fond c'est pas sérieux. Faudra bien que ça saigne des milliards, des centaines. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs. Alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés. Sur ses désirs brûlés.
Voilà, nous allons maintenant à nouveau parler de, du retour de Donald Trump à la tête de la Maison-Blanche, à la tête des États-Unis, en écoutant Michael Gordon, procureur fédéral de Floride. Voilà ce qu'il nous dit. Les enfants sont couchés, ma femme et moi prenons place dans le salon de notre maison de Tampa, en Floride, et allumons CNN. Nous sommes le mardi 5 novembre 2024, jour d'élection présidentielle. Et l'issue ne fait guère de doute. Kamala Harris, la candidate démocrate, deviendra ce soir la première femme présidente des États-Unis. Après toutes les attaques commises par Donald Trump contre nos institutions, comment en serait-il autrement? Je sais de quoi je parle. En 2021, je me suis porté volontaire pour rejoindre l'équipe de procureurs fédéraux chargé de poursuivre les auteurs de l'assaut du 6 janvier, qui avait tenté d'empêcher la certification de la victoire de Joe Biden. Pendant près de 3 ans, avec des dizaines de collègues, nous avons travaillé sans relâche pour que justice soit faite. Quelques 1500 personnes ont été inculpées, 1 000 000 d'autres condamnées, souvent à la prison ferme. C'est la plus vaste procédure pénale de l'histoire du département de la justice. J'ai moi-même poursuivi des dizaines d'émeutiers, dont les plus médiatisés, Richard Barnett, l'homme qui a pénétré dans le bureau de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre, Eric Munchell, entré au Capitole, armé de menottes, ou encore Stephen Miles, un membre de Proud Boy 1, qui a tenté de frapper plusieurs policiers. L'enquête a montré que Donald Trump avait sciemment attisé l'émeute avant de laisser faire. 4 personnes sont mortes ce jour-là, dont un policier, et des centaines ont été blessées. Non, vraiment, en 2024, je ne peux tout simplement pas croire que mes concitoyens pourraient réélire Donald Trump. Ce n'est plus une question de politique, c'est une question de respect des principes fondateurs de notre démocratie. Même ici en Floride, où plusieurs de mes amis et voisins sont républicains, beaucoup le reconnaissent. Et pourtant, la soirée tourne au cauchemar. Un à un, les États basculent dans le rouge républicain. La messe est dite bien avant la fin du dépouillement. Donald Trump l'emporte plus largement encore qu'en 2016. Il est à peine 22h30 quand nous montons nous coucher, effondrés. J'ai mal à mon Amérique. Que deviendront toutes ces années d'efforts? Ces centaines de postés restent à instruire. Mais Trump l'a promis, il graciera tous les émeutiers. Il les appelle des patriotes, des prisonniers politiques. Je travaille sur d'autres dossiers depuis un an, mais ces affaires me hantent encore. Quelques mois après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, la démocratie américaine vacille, comme prévu. L'administration envoie l'armée dans les villes démocrates, restreint l'accès à la couverture des médias ou des journalistes jugés non conformes, impose des lois électorales plus strictes, concentre le pouvoir et pratique ouvertement la corruption. Le président gracie tous les fonctionnaires sans la moindre justification. Plusieurs de mes anciens collègues procureurs impliqués dans l'enquête du 6 janvier, en paient le prix. 35 d'entre eux sont renvoyés dès la première semaine de son mandat, d'autres suivent en mars 2025. Pour ma part, je ne subis aucune conséquence. La tempête semble m'avoir épargné. En juin, ma carrière connaît même une belle avancée. Je ne venais de faire inculper un fraudeur qui avait détourné près de 100 millions de dollars à des milliers de personnes handicapées. Une victoire éclatante, salué par une conférence de presse. Lors de ma revue semestrielle, mon supérieur m'en félicite et ne formule aucune critique sur mon travail. Nous sommes le 27 juin 2025, une dernière réunion et à moi le week-end. Je fêterai cette semaine brillante avec ma famille. Je me connecte à une visioconférence. En pleine discussion, on frappe à la porte. Quelqu'un entre sans attendre. C'est Jeff, notre responsable administratif, le visage livide. Mon cœur se serre. Quelque chose est arrivé à ma famille. Mais il me tend simplement une feuille de papier. « Je suis désolé, Mike, » murmure-t-il. « On m'a dit de te remettre ça. » C'est une lettre lapidaire, signée de la procureure générale Pam Bondi, m'informant que je suis renvoyé avec effet immédiat, sans motif. Le monde s'écroule. En août, sous la fournaise accablante de Floride, je conduis mes enfants vers leur camp d'été, quand mon téléphone sonne. Numéro inconnu. Je décroche. « C'est bien Michael Gordon ?» demande une voix masculine. Lui-même, un flot ininterrompu d'insultes et de menaces jaillit pendant de longues minutes. Puis l'inconnu raccroche. C'était à prévoir. Depuis que j'ai porté plainte contre le gouvernement pour licenciement abusif, fin juillet, je suis devenu malgré moi une figure publique et la bête noire des partisans de Donald Trump. J'ai d'abord espéré récupérer mon emploi en faisant profil bas. Mon patron s'est démené en coulisses pour obtenir ma réintégration. Certes, Pam Bondi a signé ma lettre de renvoi, mais l'ordre venait à coup sûr de la Maison Blanche. Au fil des semaines, cependant, il est devenu clair que nos efforts demeureraient vains. La soif de vengeance de Trump envers ses ennemis de l'intérieur reste intacte. Comme beaucoup d'Américains, je pensais que les contre-pouvoirs empêcheraient Donald Trump d'assouvir ses pulsions autoritaires. Mes presse, justice et congrès peinent à résister au tsunami. Je ne renonce pas pour autant. Avec deux autres hauts fonctionnaires licenciés dans des circonstances similaires, nous portons l'affaire en justice le 24 juillet devant la cour du district de Columbia, qui a juridiction sur l'administration fédérale. Nous sommes confiants, nos états de service sont irréprochables et la motivation politique derrière notre renvoi est évidente. Mon histoire me dépasse déjà. Cathy Castor, élue démocrate de mon district, dénonce publiquement mon licenciement. Depuis, les journalistes m'appellent en permanence. J'ai reçu des centaines de messages de soutien d'amis, de collègues et d'inconnus. L'état de droit règne-t-il toujours en Amérique? Notre plainte apportera une partie de la réponse dans les mois à venir. Voilà, vous pouvez retrouver cette interview sur le site amnesty.fr. On écoute maintenant Marie Laforêt. La voix du silence.
Autrefois je ne savais pas qu'il est des mots qu'on n'entend pas. Mais un soir une ombre est venue qui m'a dit écoute un peu plus. Une voix te parle en mots inconnus. Tout bas la voix du silence. Je m'en suis allée promener. Les peupliers se sont penchés pour me raconter des histoires. Ils étaient les seuls à savoir. Et le vent. Des mots à tout vent et qui discourait sans parler, qui entendait sans écouter, qui composait et des chants venus de voix non repris et leurs cris ouvrent la voix du silence. Les hommes ne voient plus. Ils ont pris des rues de cœur. Les espérances ont du bruit. Noblé les vides de la vie. Et même au tombeau, sans un bruit en tout. veux pas te parler, de peur que mes mots se confondent avec le bruit que fait le monde. Mais je t'aime tant qu'un jour tu comprendras, tu m'entendras crier les mots.
Voilà, alors maintenant nous partons à Cuba pour parler de la situation de Luis Manuel Otero Alcantara. C'est un artiste autodidacte afro-cubain. Indigné par le décret 349, un texte de loi visant à réduire au silence les artistes exprimant des critiques sur la situation du pays, Luis Manuel est devenu l'une des voix les plus actives du mouvement San Isidro, un collectif d'artistes, de journalistes, de militantes et militants de tous horizons qui défend le droit à la liberté d'expression. Le 11 juillet 2021, Luis Manuel a diffusé en ligne une vidéo dans laquelle il indiquait qu'il allait participer à l'une des plus grandes manifestations que Cuba ait connues depuis des décennies. Il a été arrêté avant le début de la manifestation et emmené à la prison de sécurité maximale de Guanajay, où il se trouve toujours. En juin 2022, Luis Manuel Otero Alcantara a été condamné à 5 ans de prison à l'issue d'un procès à huis clos. Il est régulièrement privé de son droit de visite en prison, où son état de santé se dégrade sans bénéficier de soins médicaux. Alors cet artiste, le groupe de Digne, a reçu son cas comme action suivie, et nous nous efforçons d'appeler à sa libération, à ce qu'ils reçoivent des soins médicaux. Et nous avons interpellé les artistes de la région qui ont répondu favorablement à notre appel et qui ont réalisé des œuvres de soutien à cet artiste. Ces œuvres ont fait l'objet d'une exposition à Digne, puis d'une exposition à Sisteron, où d'autres artistes d'ailleurs nous ont rejoints. Et nous allons mettre cette exposition à nouveau à la médiathèque de Malmoisson du 13 au 28 février. Voilà, alors, quelle est sa situation actuellement? Nous sommes très inquiets parce que Luis Manuel Otero Alcantara a entamé un jeûne volontaire à partir du lundi 1er décembre 2025. Un geste de dénonciation face à son emprisonnement injuste et à la crise des droits de l'homme que traverse Cuba. Luis Manuel a fêté ses 38 ans mardi 2 décembre, mais il a décidé de refuser de recevoir la visite de sa famille dans le cadre de cet acte de protestation. C'est le cinquième anniversaire consécutif qu'il passe en prison, séparé de sa famille, de sa vie, de son travail. 5 années pendant lesquelles l'État cubain lui a pris du temps, des projets, des affections et de la liberté. Sa situation n'est pas isolée. Aujourd'hui, plus de 1700 prisonniers politiques sont victimes d'un système répressif qui continue d'emprisonner des artistes, des militants, des journalistes, des jeunes et des citoyens qui exigent des droits fondamentaux et surtout un changement de système pour Cuba, offrant des droits et des libertés à ses citoyens. Pendant ce temps, le pays traverse la pire crise économique, sociale et humanitaire de son histoire récente. Des cas comme celui du prisonnier d'opinion, Yosvany Rosel Garcia Cazo, qui est en grève de la faim depuis 40 jours, juste pour la cruauté de l'État, montrent l'urgence d'agir. Combien de plus les Cubains doivent-ils perdre? Combien de temps la dictature est-elle prête à les enlever avant que le monde ne réagisse? De notre communauté, nous accompagnons Luis Manuel dans cet acte désespéré, mais profondément digne. Nous exigeons qu'il ne passe pas un jour de plus en prison. Nous exigeons également la libération immédiate de tous les prisonniers d'opinion cubains. Nous voulons, exigeons, de célébrer la vie avec Luis Manuel Otero, avec le sourire et la liberté. Donc, n'hésitez pas à venir voir cette exposition qui sera donc installée le 13 février Il y aura un vernissage le vendredi 13 février à partir de 14h. Et cette exposition sera visible aux heures d'ouverture de la médiathèque jusqu'au 28 février. Voilà, alors quelles sont les actions de notre groupe sur Digne? Le mercredi 28 janvier, nous avons notre réunion mensuelle à 17h, salle des associations. Et nous serions très heureux d'accueillir de nouveaux membres. Donc, si vous êtes intéressé par la défense des droits humains, c'est un combat de plus en plus important et difficile. Venez nous rejoindre. Nous avons besoin d'être nombreux. Donc, vous pouvez venir voir comment se passe une réunion. Le mercredi 28 janvier à 17h, salle des associations, à côté de la salle de l'atrium. Ensuite, le vendredi, donc 13 février, nous allons installer l'exposition en soutien à Luis Manuel Otero Alcantara à Malmoisson. Et puis en ce moment, tous les membres du groupe sont en train de visionner des films pour pouvoir choisir lesquels nous passerons à Digne lors du festival au cinéma pour les droits humains au mois de mars. Voilà le principal de notre travail, sans compter bien sûr l'envoi d'actions urgentes qui nous arrive régulièrement pour des personnes un peu partout dans le monde. Voilà, nous allons terminer cette émission avec Souchon et Vulzi qui chantent Oiseau malin.
Leur bureau.